Alors, Annie, bonsoir et bienvenue à la conférence organisée par le groupe d'études théosophiques en parenthèse, dont le titre est L'Atlantide, mythe ou réalité. Alors, pour introduire la conférence, nous allons faire une courte lecture de quelques passages tirés des Échos de l'Orient, donc un livre qu'a écrit Monsieur Judge. Alors, parmi les adeptes, l'ascension et la chute des nations et civilisations sont des sujets étudiés en rapport avec les grands mouvements cycliques, car pour eux, il existe une relation indissoluble entre l'homme et tout événement se produisant sur notre globe, non seulement les changements ordinaires en politique et vie sociale, mais aussi tout ce qui arrive dans les règnes minéral, végétal et animal. Les altérations survenant dans les saisons se produisent pour l'homme et par son intermédiaire. Les grands soulèvements de continents, les mouvements d'immenses glaciers, les terrifiantes éruptions volcaniques, les crues soudaines de grands fleuves surviennent tous pour l'homme et par son influence, qu'il en ait conscience ou non, qu'il soit présent ou absent. Et les adeptes parlent de grands changements dans l'inclinaison de l'axe des pôles terrestres, changements passés et futurs, toujours dus à l'homme. L'adepte qui se tient sur les hauteurs prodigieuses d'où il contemple les siècles voit se dérouler les cycles majeurs et mineurs, influencés par l'homme et produisant leurs bouleversements pour sa punition, sa récompense, son expérience et son développement. Le grand sujet des cycles nous amène à considérer un fait des plus troublants qu'affirment les adeptes théosophes. Selon eux, les cycles, dans leur déroulement, sont en train de ramener à la surface, aux États-Unis et en Amérique en général, une grandiose civilisation oubliée depuis 11 000 ans ou davantage, ainsi que les hommes mêmes, les monades ou égaux comme ils les appellent, qui avaient contribué dans ce passé si reculé à la développer et à l'amener jusqu'à son éclat final. En fait, nous qui apprenons chaque jour de nouvelles découvertes et inventions et rêvons de grands progrès, partout en art et en science, sommes les mêmes individus que ceux qui ont été incarnés dans la race des Atlantes, puissants et brillants, aussi bien que méchants, dont le nom a été à jamais immortalisé par l'océan Atlantique. Les Européens sont aussi des monades de cette race. Mais la fleur, pour ainsi dire, de cette renaissance ou résurrection, apparaît et doit s'épanouir sur le continent américain. Voici la conférence.
Alors, amis, bonsoir. Donc, ce soir, on va parler de l'Atlantide. Et c'est un thème, en fait, qui est important pour la compréhension de l'histoire collective de l'humanité. Alors, on va s'attacher à savoir si l'Atlantide est un mythe ou une réalité. Il y a un document très important à propos de l'Atlantide et il nous vient de Platon. Mais il faut savoir que pour la théosophie, Platon était un initié et il avait donc devoir de secret sur certaines choses. C'est donc en langage voilé qu'il va nous raconter et c'est un peu sous forme de mythe. Mais la théosophie, cette sagesse divine, donc qui est là depuis le début de l'humanité, nous apporte des clés pour interpréter ce que dit Platon. Donc pour comprendre notre passé, comprendre ce que représente l'évolution spirituelle collective de l'humanité. Mais cette humanité est faite d'une multitude d'individualités. Donc, il s'agit aussi de l'évolution spirituelle individuelle. Alors, Madame Blavatsky, qui a été l'agent qui a redonné la théosophie au XIXe siècle au monde occidental, Madame Blavatsky, donc, dans son œuvre majeure qu'est La doctrine secrète, a également parlé de l'Atlantide. Du moins, aussi ce qu'elle avait le droit d'en révéler, étant également tenue au secret sur certains sujets. Mais l'essentiel a quand même été dit pour notre compréhension de l'histoire de l'humanité. Mais commençons déjà par l'histoire de Platon. Platon, donc, dans ses œuvres Le Timée et le Critias, eh bien, fait rapporter un récit par le grec Critias, récit qu'il tient d'un ancêtre qui a rencontré un prêtre égyptien nommé Solon. Alors, le récit que fait Solon, eh bien, remonterait à 9000 ans avant la période de Platon, donc ce qui ferait à peu près 11 500 ans. Solon explique qu'il existait un royaume au-delà des colonnes d'Hercule. Alors, les colonnes d'Hercule, eh bien, c'était le nom qu'on donnait dans l'Antiquité aux rochers qui bordent le détroit de Gibraltar. Donc, au-delà des colonnes d'Hercule, cela veut dire au-delà du détroit de Gibraltar, c'est-à-dire dans l'océan Atlantique. Alors, Solon parle d'un royaume qui était sur une immense île de la taille d'un continent. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant l'Atlantide, grâce au nom de l'océan Atlantique, bien sûr. Alors, ce continent, dit-il, avait de grandes villes, une civilisation organisée, des rois qui avaient formé un royaume grand et merveilleux. Alors, cette île, eh bien, était plus grande que la Libye et l'Asie mineure réunies. Et de là, on pouvait passer sur d'autres îles et enfin gagner le continent qui était en face. Donc on imagine qu'il y avait énormément d'habitants entre Gibraltar et ce qui est maintenant l'Amérique. Solon dit que ceux de ce royaume avaient essayé de conquérir les Athéniens, mais que ceux-ci s'étaient défendus et avaient réussi à vaincre les Atlantes. Par contre, les Grecs, ayant subi des cataclysmes, plusieurs cataclysmes, avaient perdu le souvenir de cette époque. Alors que l'Égypte, eh bien, sans doute grâce à la disposition de son pays, avait été épargnée par les eaux et donc avait conservé la mémoire de cette époque ancienne. Alors, Solon dit que les hommes ont été détruits et le seront encore. Ces cataclysmes apparaissent régulièrement, cycliquement dans l'humanité. Certains sont des cataclysmes par le feu, d'autres par l'eau, et ces grands cataclysmes produisent toujours une obscuration de la mémoire collective. Alors en effet, il dit que si les Athéniens ont oublié leur passé, c'est parce qu'il y a eu plusieurs déluges. Alors les eaux sont montées, ont détruit la civilisation grecque, à part peut-être quelques bergers qui étaient dans les montagnes. Et puis, par la suite, eh bien, la civilisation grecque a toujours été reconstruite, bien sûr. Il raconte qu'il y a eu de grandes périodes aussi de tremblements de terre, d'effondrements de continents, bref, qu'il y a eu d'énormes bouleversements sur la terre et qu'il y en aura d'autres. Alors, dans l'histoire de Platon, il est dit que pendant une grande période, tout allait bien. Voilà ce qui est dit à propos des Atlantes. Pendant de nombreuses générations, tant que la nature du Dieu se fit entendre suffisamment en eux, ils obéirent aux lois et restèrent attachés aux principes divins auxquels ils étaient apparentés. Ils se comportaient avec douceur et sagesse face au hasard de la vie et à l'égard des uns des autres. Mais quand la nature divine qui était en eux s'altéra et que le caractère humain prédomina, ils se conduirent indécemment, puis Zeus, en voyant cela, les a châtiés. Alors Platon voulait faire passer certaines idées. Il l'a fait donc de façon voilée, on l'a vu, puisqu'il ne pouvait pas dire toutes les choses. Et on peut donc considérer que c'est le côté mythe, mais on peut l'expliquer grâce à la théosophie. Alors déjà, l'histoire qui se passe 9000 ans avant Platon est un voile, car c'est plutôt 900 000 ans que 9000. En effet, l'histoire de l'Atlantide couvre plusieurs millions d'années. Ce continent a disparu progressivement suite à des perturbations de la rotation de la Terre. Et le dernier vestige, le dernier grand morceau de cette civilisation aurait disparu il y a environ 900 000 ans. Ce sont juste des repères approximatifs, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, bien sûr. Maintenant, il est dit qu'il y a peut-être une dernière petite île qui aurait été engloutie il y a environ 11 000 ans. Et cela suite à une fin de glaciation, c'est-à-dire à une montée des eaux. Et elle pourrait correspondre à l'histoire de Platon. En tout cas, la face du globe a été changée et aucun souvenir de ces continents florissants ne subsiste, sauf dans les archives sacrées de l'Orient. Alors c'est un premier point, mais on va parler aussi un peu de l'histoire de l'humanité. Déjà, on comprend qu'il y a cette notion de cycle, ces périodes de civilisation et de destruction qui reviennent périodiquement. Mais au-delà de ces périodes, il y a des cycles beaucoup plus grands, comme ce qu'on appelle un jour de Brahma, et qui correspond en fait à un grand cycle d'humanité, où des consciences animent des formes qui apparaissent, etc. Puis des périodes, elles sont suivies, ces périodes d'humanité, par des périodes de repos. Alors les chiffres de ces cycles sont gigantesques, c'est un 3 suivi de 11 zéros. Et il y a ainsi des jours de Brahma, puis des années et des vies de Brahma dans l'éternité du temps. À l'intérieur de cet immense cycle viennent des cycles énormes aussi, mais moins immenses, qu'on appelle les rondes, qui sont au nombre de 7. Et nous sommes actuellement dans la quatrième ronde. Puis, il y a encore d'autres cycles plus petits qui viennent s'inscrire à l'intérieur de chaque ronde. Il y a ainsi 7 grandes phases dans une ronde, on les appelle aussi des races, qui n'ont rien à voir bien sûr avec les races dont on peut parler actuellement, ce n'est pas du tout pris dans le sens ethnique. Ce sont plutôt de grandes vagues d'humanité. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à chaque étape, à chaque ronde et chaque race, il se développe un principe dans l'homme. La quatrième ronde dont on parle marque le développement de kama, c'est-à-dire le désir. Mais chaque race développe également plus précisément un principe. Dans la quatrième phase, la race atlantéenne, donc, c'était le mental, l'intelligence physique qui se développait plus. Dans notre phase actuelle, la cinquième, nous allons devoir contribuer à éveiller l'intelligence spirituelle. Alors, ce n'est pas l'intelligence spirituelle, le total éveil, hein, parce que ça se fera dans un cycle futur, lointain. Mais nous devrions déjà commencer à fonctionner sur ce mode, car si nous continuons à fonctionner sur le mode égoïste, eh bien, bien sûr, personne ne nous jugera, mais nous allons créer un déséquilibre par rapport à notre nature spirituelle. Donc, nous devrions déjà commencer à ne plus nous identifier à notre corps, ce qui est quand même quelque chose d'important, et voir la mort aussi différemment, car finalement c'est juste l'habitant du corps qui s'en va pour se réincarner plus tard dans un corps neuf. Donc nous sommes tous actuellement, et pour sûrement encore longtemps, dans la cinquième grande race, ou dans la cinquième phase, donc, de cette quatrième ronde. Et cette cinquième phase, elle a commencé il y a environ 1 million d'années. Alors, l'Atlantide est un cycle particulier de l'humanité et qui fait donc aussi partie de cette quatrième ronde. C'est la phase juste avant la nôtre. C'était donc la quatrième phase ou la quatrième race. Après, il y a encore des sous-races qui sont aussi au nombre de 7. Et pour chaque grande vague d'humanité, il y a ensuite 7 sous-races, et puis des cycles encore de plus en plus petits, mais on ne va pas entrer dans les détails. Notre Terre est donc le champ d'expérience de toutes les consciences qui la peuplent. Et nous sommes dans un grand cycle d'évolution dans le but de retourner à notre racine divine en toute conscience. Et donc, nous sommes sur cette Terre parce que nous sommes attachés à ce théâtre d'évolution. Et ce théâtre d'évolution a la forme que l'humanité, que toutes les consciences lui ont donnée. En effet, on postule que c'est le principe spirituel de l'homme qui fabrique son corps, et non pas le corps qui fabrique le principe spirituel. Alors, par exemple, la forme de notre corps, notre caractère, sont des caractéristiques karmiques qui s'associent à telle ou telle famille qui ont les mêmes caractéristiques héréditaires correspondantes. Or, tout ce qui est karmique est contrôlé par l'aspect spirituel de l'homme. Pour les continents, c'est un peu pareil. C'est la pensée spirituelle de l'humanité et ses pouvoirs qui donne forme à ces continents. Parce que tous les bouleversements qui arrivent sur la Terre, que ce soit des tremblements de terre ou d'immenses cataclysmes qui changent l'aspect de notre globe, tous surviennent pour l'homme et par son influence, aussi bizarre que cela puisse paraître. Et cette Terre, eh bien, est comme un homme qui naît, qui grandit, qui se développe, qui meurt et qui renaît. Eh bien, les continents qui sont à la surface de la Terre sont également soumis au cycle. Un continent va émerger des eaux, la vie va se développer dessus, puis peu à peu, ce continent va être de nouveau englouti dans les eaux, ce bouleversement faisant émerger d'autres terres, etc. À chaque grande période, il y a des bouleversements et ce sont des terres différentes qui sont utilisées par les populations. Pendant que d'autres sont en repos au fond des océans, jusqu'à ce qu'elles réapparaissent un jour ou l'autre. C'est un peu comme un recyclage, une répartition pour chaque grande étape humaine. Et donc, ces terres vont servir de théâtre à l'évolution des peuples qui y sont. Alors, tous les grands continents sont appelés un jour à disparaître, puis à réapparaître sous une autre forme, bien sûr, pas exactement comme ils étaient. Par exemple, l'Europe, le nord de l'Asie et les deux Amériques, eh bien, ont émergé peu à peu à partir de la période de l'Atlantide et depuis le continent de l'Atlantide. Et il représente donc le champ de vie d'une partie de notre humanité actuelle. L'Atlantide est donc inextricablement lié à notre phase actuelle, mais également à la phase qui l'a précédée, c'est-à-dire la troisième phase ou troisième race. Madame Blavatsky l'a appelée la Lémurie. C'est une race donc qui était, on l'a bien compris maintenant, sur d'autres terres émergées à cette époque. Il y a toujours un groupe de continents qui est associé à une vague d'humanité. Et l'Atlantide, donc, est né peu à peu d'éléments qui venaient du continent précédent, c'est-à-dire de la Lémurie. Et la Lémurie avait disparu suite à des convulsions et des feux souterrains et qui ont amené la rupture de fonds océaniques. L'Atlantide est donc la quatrième phase de cette ronde. Elle remonte en gros entre 10 millions et 1 million d'années. Mais donc, il y en a eu trois avant elle. Une première race qui était très éthérée, une espèce de prototype. Après, on entre dans l'astral où se forme le modèle physique. C'était donc des phases de préparation où l'homme n'était donc pas encore physique. Et c'est dans cette troisième phase donc, ou race qui précède l'Atlantide, donc la Lémurie, qu'a été la charnière. En effet, elle a commencé dans l'astral et a fini dans le monde physique. Elle a été le point médian où les hommes étaient sur un pôle spirituel encore, mais sans soi conscience. C'est-à-dire un peu comme un bébé qui s'identifie à sa mère. Les hommes avaient un corps astral qui était en train de devenir physique. Alors, c'était probablement ce qu'on appelle l'âge d'or, quand les dieux marchaient avec les hommes, parmi les hommes. Alors, cette période a donc commencé dans la troisième race, celle des Lémuriens, il y a environ 18 millions d'années, et c'est fini seulement dans le début de la race atlantéenne. Donc, cette immense période correspond également à l'éveil des hommes à la soi-conscience, et cela par l'intervention d'une classe d'êtres hautement spirituels qui faisait partie d'une humanité précédente. Alors, dans la Genèse, cette époque a été symbolisée par Adam et Ève qui mangent le fruit de l'arbre de la connaissance, puis qui sont chassés du paradis et revêtent des vêtements de peau, c'est-à-dire qu'ils deviennent des êtres physiques, des hommes de chair. Et à ce moment-là, il y a aussi la différenciation des sexes qui se passe. À partir de là, l'homme devient mortel, parce qu'avant, il n'y avait pas de mort physique et d'état post-mortem, parce qu'il n'y avait pas de corps physique. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis que ces êtres hautement spirituels ont allumé la conscience réfléchie dans l'homme, ça a été le point de départ dans l'humanité de cette sagesse ancestrale dont on parle et dont la théosophie donc, de Madame Blavatsky nous a redonné les grandes lignes. Cette sagesse ancestrale, qui est détenue donc par la fraternité des maîtres de sagesse, elle ne s'est jamais perdue et n'a jamais été interrompue depuis cet éveil. Depuis donc cette troisième race et l'éveil de la soi-conscience, il y a toujours eu une chaîne ininterrompue de maîtres qui ont initié des disciples et ainsi de suite. Et c'est pour cela que Madame Blavatsky a pu nous rapporter cette connaissance qui nous vient du fond des âges, c'est grâce à cette chaîne ininterrompue. Et c'est important aussi pour comprendre que toutes les religions qui se sont développées par la suite prennent forcément leurs racines communes dans cette sagesse ancestrale. Alors, les Atlantes étaient une race immense, étaient des géants, ils mesuraient environ 9 à 10 mètres. Mais ils étaient quand même plus petits que les hommes de la troisième race, qui étaient encore plus grands. Donc à côté, nous sommes vraiment des nains. Mais encore une fois, tout se fait progressivement. Tous ces cycles se chevauchent et il n'y a rien qui se fait d'un coup comme ça. Ce ne sont jamais des coupures radicales. Dans toutes les traditions religieuses, il y a l'idée de géants. Et d'ailleurs, les statues, ces immenses statues de l'île de Pâques, représentent un fragment de la civilisation, mais pas la civilisation des Atlantes, de la civilisation encore plus ancienne, celle de la troisième race, des Lémuriens. Et donc, ça a été conservé, ce petit bout d'île a été conservé tel que. Madagascar et l'Australie sont aussi des restes de ce continent lémurien de la troisième race. Et comme de nos jours, eh bien, il y avait des gens civilisés et des sauvages à ces époques, que ce soit la troisième ou la quatrième race. On va un peu parler de la spiritualité. Alors, les Atlantes étaient donc tout à fait conscients d'eux-mêmes et étaient intelligents. Tout au début, dans la première sous-race, le langage s'est mis en place, parce que le langage n'est possible qu'avec l'éveil de la soi-conscience et de l'intelligence. Ils avaient également au début une religion universelle, c'était la religion de la nature. Alors, comme le disait Platon, eh bien, ils sentaient le divin en eux. Ils étaient encore innocents et à ce moment-là, eh bien, ils possédaient encore ce qu'on appelle le troisième œil. Alors, tout ce qui paraît surnaturel maintenant, eh bien, était inné et aussi naturel que marcher et penser pour cette humanité qui était naissante, en fait. Ils possédaient donc le troisième œil, qui est... Et le troisième œil, c'est la clairvoyance spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la clairvoyance psychique des médiums. Non, c'est vraiment voir les choses avec une vision spirituelle, comme l'ont les maîtres de sagesse. Mais eux, par contre, ne l'ont pas d'une façon innocente, parce qu'ils ont fait toute la discipline spirituelle nécessaire pour se purifier et acquérir de nouveau ce troisième œil en toute conscience. Donc les Atlantes au début possédaient ce troisième œil, puis petit à petit ils ont commencé à tourner leur regard vers le monde de la matière. Des différences se sont faites parmi ces hommes qui étaient égaux au départ, puisque dans la troisième race, avant d'être des êtres physiques et étant sans soi-conscience, leur karma était pour ainsi dire vierge. Mais bien sûr, tous les hommes n'ont pas été éveillés en même temps. Là aussi, ça s'est passé très progressivement. Ensuite, avec la soi-conscience et le libre arbitre, eh bien, leur karma a commencé à s'exprimer, c'est-à-dire les effets du choix de leurs actions. Et, eh bien, petit à petit, tout ne baigne plus dans le spirituel. Chacun commence à s'identifier à son corps. Des religions différentes apparaissent, des langues différentes. Les peuples ne se comprennent plus. La clairvoyance spirituelle s'affaiblit, car le troisième œil, eh bien, peu à peu se pétrifie. En fait, c'est l'éveil de la dimension spirituelle qui fait que l'on comprend l'autre, même s'il ne parle pas du tout la même langue. Les sages de toute la terre se comprennent, peu importe la langue qu'ils parlent. Mais lorsque le cerveau commence à fonctionner sur le mode de la séparation, le langage du cœur ne fonctionne plus. Et pourtant, comme le dit Madame Blavatsky dans son livre « La voix du silence », la doctrine du cœur est la voix, elle est essentielle. Donc, certains Atlantes sont restés attachés à la religion de la nature, à ce qu'on appelle la magie blanche, la spiritualité, la sagesse, le cœur, et d'autres ont plutôt été attirés vers la magie noire, l'égoïsme et l'utilisation de pouvoir pour eux-mêmes. Alors là, les choses ont vraiment commencé à se gâter. Ces êtres qui étaient attirés par la magie noire ont été des meneurs qui ont entraîné une majorité passive, mais qui étaient prêtes à se laisser entraîner. Mais tout cela, on le répète, s'est passé durant des millions d'années. Au cours de la troisième race, quand l'homme était devenu physique, mais n'avait pas encore la soi-conscience, certains hommes mâles s'étaient accouplés avec des femelles animales. Bon, étant comme des animaux avec des corps d'hommes, ils n'étaient pas responsables de leurs actes. Mais les descendantes de ces accouplements contre nature, quand même, qui avaient plus la forme animale qu'humaine, ont été choisies par ces magiciens noirs comme femelles pour faire naître des êtres qui leur serviraient d'esclaves. Et cette fois, en pleine conscience, juste dans un but égoïste, pour profiter de ses descendants comme serviteurs. Il y a donc des âmes humaines enfermées dans des corps d'animaux humanoïdes. Mais la théosophie dit qu'il y aura des compensations pour eux. Donc, c'est très grave. Il y a eu abus de pouvoir, de sexualité, de reproduction, à des fins uniquement égoïstes. La clairvoyance n'avait plus du tout lieu d'être, et cela a donc fini peu à peu d'atrophier totalement le troisième œil, dont la trace en nous est enfouie dans le cerveau, c'est la glande pinéale. Ce troisième œil, par contre, est fonctionnel chez les sages qui l'ont développé par l'initiation. Donc, peu à peu, vers la fin de cette quatrième race, il y a eu vraiment opposition entre la magie blanche et la magie noire. Mais c'est vrai qu'à un certain stade de développement, ce qui sépare la magie blanche et la magie noire est très mince et on peut facilement basculer de l'une à l'autre. Quoi qu'il en soit, les magiciens noirs avaient fait en sorte d'être avertis quand les eaux monteraient, commenceraient à monter. Et les magiciens blancs ont fait en sorte que ces avertissements n'arrivent pas et que les magiciens noirs n'évitent pas leur karma et soient engloutis par les eaux. D'ailleurs, en termes de karma, l'humanité devra bien sûr faire face aux effets de ce karma qu'elle s'est forgé. Car il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec la réincarnation, nous sommes ces Atlantes. Alors, l'Atlantide, mythe ou réalité? Le côté mythe est la description de ce royaume par Platon et la période à laquelle il le date. En effet, on a vu que Platon, en tant qu'initié, a voilé un certain nombre de choses. Par contre, pour la théosophie, la réalité est que le continent Atlantide a bel et bien existé et que c'était une civilisation très développée qui connaissait les arts, les sciences, la physique, la chimie et l'alchimie, les mathématiques, l'aéronautique, la météorologie et l'astronomie aussi, enfin, etc. Et tout ceci, c'est une partie de l'histoire de notre humanité. Donc nous sommes ces Atlantes, c'est-à-dire que nous avons ce bagage karmique collectif semé il y a plusieurs millions d'années. On voit que nous ne sommes pas du tout tout nouveaux sur Terre. Alors l'engloutissement de l'Atlantide par les eaux est un phénomène naturel, comme la mort du corps physique. Plusieurs fois sur la Terre, ces grands cataclysmes sont arrivés et il en arrivera de nouveau. Ces grands cataclysmes arrivent à la fin d'un cycle pour les hommes et avant le départ d'un nouveau cycle. Ils n'arrivent pas brusquement parce qu'ils s'étendent sur de longues périodes. Mais ils sont déclenchés par des forces spirituelles. L'âme, en quelque sorte, retire son pouvoir de cohésion et l'eau ou le feu fait le reste. Alors il y a toujours des rescapés à ces cataclysmes. Karma a fait que, pour l'Atlantide, les rescapés furent les magiciens blancs qui ont été éloignés du continent englouti, afin de constituer le noyau fondateur de notre cinquième race et ainsi commencer le nouveau cycle sur des bases plus saines quand même. Même si avec la réincarnation, cela ne change rien pour la suite, puisqu'il y a de tout dans notre cinquième race aussi. Et notre cinquième race, justement, va devoir de nouveau faire face à la montée des pouvoirs. Et c'est quelque chose même qui commence déjà pour certaines personnes. Encore une fois, nous sommes ces Atlantes et nous allons devoir cette fois subordonner l'utilisation de ces pouvoirs qui s'éveillent maintenant à la destinée spirituelle de l'humanité et non pas égoïstement comme l'ont fait tant d'Atlantes pendant cette quatrième phase de l'humanité. Il va donc falloir être plus adulte, prendre le chemin de la réalisation spirituelle et ne pas être passif face aux pratiques de la magie noire, c'est-à-dire de tous les abus vis-à-vis de la nature ou des autres êtres. Et parce que tous ces abus se font toujours dans des buts purement égoïstes. Bien sûr, les cycles sont encore nombreux. Nous sommes encore là pour longtemps, donc il ne faut pas être pessimiste. Mais il faut quand même prendre conscience de notre responsabilité individuelle et collective pour tout ce qui arrive sur cette terre. Et surtout, il est important de savoir ce qu'il s'est passé, de ne pas l'oublier. Il ne faut pas oublier ce que nous avons fait en tant qu'Atlantes. Parce que cette mémoire ancestrale, eh bien, peut nous permettre d'en tirer des leçons et de peut-être ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà.